voilà. Et maintenant, du coup, c'est Noémie et Marne de la Quadrature du Net qui viennent animer cette prochaine discussion sur la surveillance algorithmique. Nous, ça nous tenait vraiment à cœur d'explorer ce thème, notamment parce qu'ici, au Tannery, on a été touchés très directement par la découverte d'une caméra de vidéosurveillance. Pas les classiques, vous voyez, celle par exemple des keufs ou on ne sait qui avait été installée là. Et à ce moment-là, la Quadrature du Net était venue nous soutenir. Et du coup, il y a et le côté aspect surveillance des militants, mais là, on va voir que ça s'étend à bien d'autres choses. Et aborde aussi la question des Jeux Olympiques et des actions possibles et un peu directes qu'il y a à faire dans les temps à venir. Voilà. Bon courage.
Alors, attends, tant pis. Merci. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, c'est Noémie. Et effectivement, on va vous parler de vidéosurveillance algorithmique. Enfin, c'est l'idée. Mais après, si vous voulez parler d'autres choses pendant le temps de discussion, on pourra élargir. Ce qu'on s'est dit qu'on pouvait faire, c'était un peu deux temps dans la discussion. Donc, d'abord, on va pas mal vous expliquer c'est quoi la vidéosurveillance algorithmique, d'où ça vient, etc., les dangers. Et là, on peut se faire un temps de questions, si vous voulez, si vous voulez préciser. Et après, de faire une discussion plus sur les actions. Parce que là, notamment, on commence une campagne. Comme ça vient d'être rappelé, il y a les JO, et enfin, surtout la loi sur les JO, qui met en place cette vidéoscience algorithmique de façon légale pour la première fois. Et ça va être partout en France. On va en reparler. Du coup, voilà, un premier temps plus, c'est quoi ? Un peu de questions et après, luttons ce que nous, on propose et comment vous aussi, vous pouvez lutter et essayer de réfléchir ensemble. Voilà, en gros, et on voit combien de temps ça nous prend tout ça.
Ensuite, pour commencer, je vais rapidement présenter la Quadrature du Net, donc du coup, qui est l'association pour laquelle on milite, Noémie et moi, qui est née en 2008. D'abord, le propos général de l'association, donc du coup, c'est de défendre les libertés dans un environnement numérisé. Et donc, historiquement, en 2008, ce qu'on voyait surtout, c'était la promotion d'un idéal d'un Internet libre. On avait une vision assez utopique du rôle que pouvait avoir Internet en tant que démocratie. Et donc, à l'époque, on se mobilisait plus autour de la culture du partage, et notamment contre Adopi ou des logiques de copyright, ce genre de choses-là. Progressivement, le numérique prenant de l'espace dans la société, les atteintes aux libertés ont grandi aussi, donc on s'est intéressé ensuite aux renseignements, et ensuite on a commencé à sortir encore plus d'Internet en se posant la question de la place des technologies dans la rue. Et donc là, c'est en 2019 où on a eu on a investi un nouveau champ qu'on a appelé le champ de la technopolis, dont on va pas mal parler là, puisque nous, c'est à travers cette enquête-là qu'on a découvert la vidéosurveillance algorithmique. Donc à l'origine, donc en 2018, avant de lancer la campagne Technopolis, on se posait la question de la place de l'intelligence artificielle dans la ville. C'était une époque où du coup on abordait plutôt cette question sous l'angle de la smart city, sous un angle très fantasmé d'une technologie magique qui viendrait fluidifier les flux des villes rendre la ville autonome avec tout un imaginaire assez fort. Et donc on s'est intéressé un peu Dijon avec On Dijon largement surfait aussi sur cette hype qui est retombée assez vite, puisque dans nos enquêtes autour de l'usage d'intelligence artificielle dans les villes, très rapidement au terme de Smart City s'est substitué celui de Safe City. Auquel du coup nous on a élaboré une réflexion pour trouver un nom qui qualifierait mieux cet écosystème de technologie qui se déploie dans les villes, et on a choisi le nom Technopolis. Dans nos enquêtes, donc on allait voir dans différentes villes où se déployaient différents projets, c'était généralement donc un ensemble de solutions qui pouvaient passer donc par les drones, par de la vidéosurveillance algorithmique, donc le fait d'ajouter des solutions d'intelligence artificielle pour analyser les flux des caméras de vidéosurveillance, mais aussi on a pu croiser de l'audiosurveillance algorithmique, des capteurs en tout genre, de la collecte d'informations et du recoupement d'informations. Par exemple, dans un des projets qu'on avait pu analyser à l'époque, en 2018, il y avait l'Observatoire Big Data de la Tranquillité Publique à Marseille qui revendiquait la volonté de croiser les informations issues de la police, des hôpitaux, pour pouvoir recouper tout un tas d'informations pour surveiller les gens. Et donc, du coup, je vais te laisser expliquer mieux ce qu'est la vidéosurveillance algorithmique.
Donc pour continuer un peu la chronologie, quand on a commencé à s'intéresser à ce phénomène de Technopolis, il y a une technologie qui apparaissait en fait comme déjà très répandue ou en train de se répandre en France et qui primait par rapport aux autres en quantité et qui est donc cette fameuse vidéosurveillance algorithmique. Donc, comme son nom l'indique, c'est le fait d'ajouter des logiciels, des algorithmes au flux de vidéosurveillance. Des logiciels qui sont utilisés par la police pour analyser les images et repérer, classer, identifier des comportements ou des caractéristiques physiques en particulier. Donc concrètement, en fait, aujourd'hui, les caméras, la plupart des villes, pas toutes, soit il n'y a personne qui les regarde, sinon la plupart des villes se dotent de ce qu'on appelle des centres de supervision urbains. Donc c'est vraiment des pièces avec plein d'écrans et qui renvoient les images des caméras. Donc aujourd'hui, c'est des humains qui regardent. Et l'idée, c'est d'automatiser ce travail et donc de demander à un algorithme de reconnaître certaines choses. Et ces choses, on va en parler, ça peut être des comportements, mais ça peut aussi être des caractéristiques physiques, ça peut être des situations. Et donc, ça veut dire qu'on aura appris à un algorithme à reconnaître ces types d'images. Ça peut être donc des objets, des personnes, des événements. Nous, on distingue techniquement, c'est la même chose, mais dans les applications, dans ce qu'on a vu, on distingue deux types de... Alors, on va beaucoup dire VSA, c'est l'acronyme de vidéosurveillance algorithmique, parce que c'est plus rapide. Voilà, mais du coup, si... pour pas que vous soyez perdus, donc on voit deux types de VSA. Il y en a une, c'est la vidéosurveillance algorithmique en temps réel. Donc, c'est voilà, la personne qui est dans son CSU. Donc l'agent, en gros, il regarde toute la journée des écrans et en temps réel pour essayer de repérer quelqu'un qui fait ou va faire une infraction. Voilà, ça c'est le mythe de base. Et donc l'algorithme le logiciel va déclencher une alerte en temps réel quand un comportement dit suspect ou anormal, qui aura été défini auparavant, sera repéré. Donc, exemple, dans les choses qu'on a assez vite vu, il y avait ce qu'on appelait le maraudage. Donc en fait, c'est juste quelqu'un qui est statique ou qui zone un peu au même endroit. Donc si dans le logiciel acheté par la ville, il y a l'option maraudage, petite alerte dans le centre de supervision urbain quand il y a ce comportement. Et il y a tout un autre tas, évidemment plein d'autres comportements et on va en reparler. Donc ça, voilà, c'est la vidéosurveillance algorithmique en temps réel. Et l'autre utilisation, c'est donc celle qui est en temps différé. Et donc ça, c'est... En gros, les images, ensuite, elles sont conservées pendant un certain temps, c'est jusqu'à un mois maximum. Et dans le cadre d'enquête, la police peut réquisitionner des images, donc dans ce délai de un mois. Et la VSA en temps différé, là, elle va être utilisée soit pour condenser, par exemple, plutôt que de regarder 3 heures de vidéo, ça va condenser ce temps pour visionner juste certaines parties. C'est que ça prend beaucoup de temps et en fait c'est un peu comme faire une recherche avec des mots clés, sauf qu'on va le faire sur des images. Donc par exemple, on peut aussi demander avec la VSA en temps différé de faire apparaître que les personnes avec un kawaii bleu, ou que les hommes, ou que les femmes, ou que les personnes qui ont une casquette. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait, qui marche. Le principal logiciel qui fait ça en France, qui est très utilisé dans les villes de France, c'est Briefcam, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il y a eu pas mal de révélations ces derniers temps, et on en reparlera parce qu'ils ne font pas que ça, ils font aussi de la reconnaissance faciale. Donc Briefcam, c'est une entreprise israélienne qui a été rachetée par Canon, et donc il y a beaucoup de villes qui s'en équipent. Et voilà, donc il y a soit en temps réel, soit en temps différé, mais c'est la même technologie. Souvent, on va en reparler, c'est les mêmes entreprises qui vendent ces deux fonctionnalités. Mais on verra comment ça a été amené dans le débat public. Il y a souvent cette distinction qui est faite. Et aujourd'hui, on parle surtout de la VSA en temps réel, alors que la VSA en temps différé, c'est en fait, elle est hyper utilisée et elle est tout aussi dangereuse. Et voilà. Du coup, pour en gros, grosso modo, ce que c'est techniquement.
Et en fait, donc, du coup, la VSA, elle peut être utilisée dans plein d'usages. Nous, on parle majoritairement des usages policiers sur les caméras publiques. Mais après, elle peut exister aussi dans les supermarchés pour détecter du vol. Elle peut être utilisée éventuellement en entreprise. C'est très difficile de savoir quand elle est utilisée. Et donc, on ne sait pas. Et nous, on s'est particulièrement penché sur l'usage qui en est fait par la police. Et donc du coup la volonté assumée de la VSA, c'est vraiment de placer une paire d'yeux, et donc là en l'occurrence d'yeux de policiers, derrière chaque caméra. Ça donc, ce que ça veut dire, que ce soit pour la VSA en temps réel, comme expliquait Noémie, ça veut dire pouvoir, là où pour l'instant sur un parc de caméras immense, il y a les capacités de la police sont restreintes par le fait qu'il y a peu d'agents, et ça c'est une bonne chose en fait, d'avoir de cibler l'investissement policier sur des choses qui sont jugées comme prioritaires. Le fait de venir systématiser l'action policière, ça représente un passage à l'échelle qui est énorme en termes de répression. Et c'est le cas aussi pour la VSA en temps différé, qui donc du coup, elle est plus utilisée par les enquêteurs. Là où avant, il fallait quelque chose de qualifié comme étant spécifiquement grave pour investir le temps d'enquêteurs pour regarder des heures et des heures de caméras de flux de vidéosurveillance, là, ça peut être fait de manière automatique, y compris pour des petites infractions, des choses qui... quand même dans le cadre d'une procédure, mais de manière beaucoup moins coûteuse. Donc tout ça, ce que ça veut dire, c'est que la VSA, elle consiste vraiment en une démultiplication des forces de police. Et ce n'est pas une démultiplication des forces de police qui s'exerce partout, ça s'exerce principalement dans la rue et dans les espaces publics, c'est-à-dire les espaces qui sont des lieux ressources pour les gens qui ont le moins accès à des espaces privés. Donc déjà, on peut voir que la cible principale de la VSA, ce sera pas, c'est pas les bourgeois, quoi. Ensuite, on peut le voir aussi à travers les fonctionnalités qu'il y a dans ces logiciels-là. On peut voir qu'en fait, la VSA, c'est vraiment un outil qui accompagne des politiques de gentrification. C'est-à-dire, donc, dans les usages qui sont connus et qu'on peut faire parler, par exemple, il y a le fait de rechercher des personnes qui sont allongées dans la rue et donc d'envoyer une alerte à chaque fois que quelqu'un s'allonge dans la rue quelque part à la police. Ou les fonctionnalités de maraudage qui peuvent être utilisées pour repérer les personnes qui mendient ou les travailleuses du sexe. Donc en fait, ces fonctionnalités, elles viennent servir, le logiciel est fabriqué pour servir une certaine vision de la ville et une certaine vision policière. Je pense qu'on en reviendra sur les acteurs qui poussent au déploiement de ce type de solution. Voilà, donc en gros, on voit vraiment que les cibles principales de la VSA, ça va être les personnes précaires et les personnes marginalisées de manière générale.
Ouais, et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste, enfin, évidemment que c'est un outil de surveillance. Et dans l'espace public, donc il y a une surreprésentation de personnes, comme l'a dit Marne, ça va être les gens qui soit vivent dans la rue, soit ont moins de... ont pas d'autre choix. Donc en fait, je pense à un autre usage. Par exemple, il y a un groupe qui se forme. C'est un usage qui est détecté. Bah, souvent, dans la rue, il y a des jeunes qui traînent parce qu'ils n'ont pas le choix d'être... ils n'ont pas d'espace privé où se poser. Donc, et en plus de ça, l'espace public, c'est un espace qui est politique. C'est un espace où on exerce nos libertés, c'est un espace où on va manifester, c'est un espace où on crée. Il y a aussi la liberté d'aller et venir. Donc, en plus de ces populations qui sont sur-ciblées, mais parce qu'en fait, elles sont déjà sur-ciblées par des politiques répressives, toute surveillance dans l'espace public nous concerne tous, toutes et tous. Et avec cette vidéosurveillance algorithmique, il y a un passage à l'échelle, un renforcement de cette surveillance de masse qui existe déjà à travers toutes ces caméras, mais qui donc est largement, en tout cas la gravité est largement intensifiée. Et bon, nous on le dit, mais on n'est pas les seuls. Même la CNIL, qui n'est pas forcément l'institution la plus gauchiste, donc c'est l'autorité de protection des données personnelles, qui s'est un peu penchée sur le sujet. Même elle dit que c'est un tournant, parce qu'avant, les caméras faisaient que regarder, et maintenant, elles analysent. Et elles analysent voilà, avec une vision qui aura été dictée par les entreprises et la police. Voilà. Alors ça, c'est en très rapide, un peu les grandes... les grands dangers qu'on voit, mais on pourra en reparler, on pourra développer. Mais peut-être on parle de comment un peu ça fonctionne.
Ouais.
Oui.
Oui, parce que du coup, là, je réfléchissais à une transition pendant que tu parlais et je me disais, en voilà une bonne. Donc oui, il y a un changement de nature des caméras qui est identifié par la CNIL, disant qu'elles passent d'un rôle passif à un rôle actif d'analyse, ce qui peut faire penser comme ça que le logiciel est directement dans la caméra et qu'en fait, pour installer de la VSA, il faudrait remplacer le parc de caméras. Et donc, c'est pas le cas. Ce sont des briques indépendantes. En plus, les logiciels de VSA peuvent s'adapter à de très larges spectres de types d'images, y compris de caméras qui seraient assez anciennes sur des résolutions assez basses. Et donc, du coup, si on entre dans le fonctionnement des logiciels, donc, je vous le disais, c'est beaucoup les usages policiers, puisque en soi, la vidéosurveillance algorithmique, ça consiste vraiment à tenter d'automatiser le travail de la police. Donc, c'est logique que les entreprises, dans les fonctionnalités qu'elles développent pour leur logiciel, elles mettent en priorité les choses que fait effectivement la police. Et évidemment, il y a un échange qui se fait entre ces différents acteurs pour développer les logiciels. Et si on va regarder plus en profondeur sur le type d'intelligence artificielle qui est utilisée. Donc, il s'agit du champ de la computer vision, qui est donc spécialisé dans l'analyse d'images. Et donc, ces différentes petites briques techniques, je vais vous en donner quelques-unes pour que vous figuriez comment est-ce que ça fonctionne et à quel point, en fait, la VSA peut couvrir un spectre d'usage extrêmement large. Donc, en gros, sur une image, on va avoir un premier algorithme qui identifie les différents éléments. Enfin, c'est un algorithme de détection, ça s'appelle, donc c'est pour dire telle chose est différente de telle autre. Ensuite, un deuxième qui est un algorithme d'identification, qui sont des algorithmes dont sûrement vous avez déjà pas mal entendu parler, puisque c'est ceux qui sont entraînés sur des grosses bases de données. Donc, par exemple, je veux repérer un chat, j'envoie à l'algorithme un très grand volume d'images de chat, et donc on fait ça pour tous les types d'éléments qu'on pourrait distinguer dans une image. Ensuite, on a des algorithmes de suivi qui servent donc à garder le focus sur l'objet s'il se déplace dans l'image. On peut avoir. Alors, il y a les algorithmes de reconnaissance faciale que sûrement vous devez connaître, qui sont basés sur l'écart qu'il y a entre les différents points du visage, qui permet de faire une empreinte unique, qualifiée par ces écarts de points. Après, on a des algorithmes de réidentification, par exemple. Donc nous on appelle ça des. Ah, pardon, il faut parler plus près du micro, désolé. Des algorithmes de réidentification que nous on appelle des algorithmes de filature automatisée, qui donc du coup eux sont basés sur les caractéristiques physiques pour, dans un parc de caméras, suivre une personne et pouvoir retracer l'ensemble de son parcours, que ce soit en temps réel ou en temps différé. Et bref, en fait, avec toutes ces petites briques là, on peut décider. Une nouvelle fonctionnalité demain, par exemple, repérer en temps réel les femmes voilées. Et en fait, le spectre d'usage est extrêmement large. Pour l'instant, ceux dont on entend parler, c'est ceux qui sont le plus utilisés par la police et aussi ceux qui sont le plus le qui fonctionnent le mieux en pratique. Parce qu'il y a aussi cette question-là que, en fait, il y a beaucoup d'applications qui fonctionnent assez mal. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point. À la fois la facilité technique, le choix des sets de données, parce que par exemple, là, on en reparlera après, mais dans la loi JO, on a la question d'automatiser la détection d'armes, mais à quel endroit est qualifié ce qui est une arme? Eh bien, tout ça se joue du côté de l'entreprise, c'est très. Et donc, du coup, on a une succession de décisions politiques qui sont prises dans les détections qui sont à faire, l'enchaînement des briques technologiques et quelles données elles utilisent en réalité de nos corps, qu'est-ce qu'elles extraient comme données pour détecter. Et puis, enfin, voilà, je sais pas si. Ah, et puis, non, si, peut-être, je sais pas. Ouais, non, je le dirai après. Non, je me disais que. Donc là, on a plus de visibilité sur les choix qui sont pris en interne par les entreprises qui vont conditionner l'action policière et qui vont déclencher des actions sur la base du coup de décisions d'entreprises privées ou d'une facilité technique. Et il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles, y compris les gens qui travaillent dans ces entreprises, ont très très peu de vision, puisque donc du coup parmi ces algorithmes. Il y a notamment, par exemple, les algorithmes d'identification dont je vous parlais. La technologie utilisée, c'est celle du deep learning, vous avez probablement entendu parler, qui fait que, y compris les data scientists, les gens qui élaborent les algorithmes, ne savent même pas vraiment de quelle manière ça fonctionne, ne savent même pas vraiment qu'est-ce qui est utilisé pour faire ces empreintes qui permettent de repérer un chat, distinguer un chat d'un chien et d'une voiture d'une autre. Donc en fait, il y a aussi ce truc-là que, y compris ceux qui développent ces algorithmes, n'ont pas beaucoup de vision sur ce qu'ils sont en train de faire en réalité.
Et juste peut-être pour compléter, en gros, nous, quand on essaye d'expliquer le fonctionnement technique, surtout à des personnes qui ne connaissent pas, ou quand c'est des politiques qui votent la légalité de cette technologie, c'est pour sortir du mythe que c'est un outil magique et qui va trouver tout seul. Non, en fait, à chaque étape du processus de fabrication, il y a un choix fait par un humain. Mais ça, c'est avec toute forme d'intelligence artificielle, on en a parlé avant aussi. Et aussi pour sortir de la... et puis ça marche pas, c'est qu'il y a un biais, on va le débiaiser et tout ira bien. Non, en fait, c'est des choix et que ce soit les données, que ce soit les événements à repérer, que ce soit ensuite comment on règle, c'est juste le reflet de la société. Donc les données seront toujours, les données, les images de la ville seront toujours le reflet d'un certain endroit et comme on l'a dit, en fait, ça n'existe pas une ville neutre, un espace public n'est pas neutre et c'est pour sortir. Je pense qu'on en reparlera d'imaginer, voilà, la VSA, c'est juste un outil magique qui va rationaliser le travail des humains. Non, en fait, c'est juste une succession de choix politiques et subjectifs. Et en l'occurrence, là, c'est ceux de la police et des entreprises. Voilà, ça, c'est un peu le grand tableau. C'est quoi la VSA? Comment ça marche en gros maintenant? D'où elle vient? Et comment ça se fait qu'elle soit aussi... Ouais. Le deep learning. Vas-y.
Ah, du coup, c'est une sous-partie du machine learning qui est en fait le nom utilisé par les chercheurs et les gens qui développent ce type d'algorithme pour parler d'intelligence artificielle. Et donc, c'est une sous-section où en fait, le principe, c'est juste que tu as un amoncellement de couches de neurones et donc des calculs qui sont...
Peut-être expliquer le machine learning d'abord ? Qu'on apprend à reconnaître.
Tu vois. Oui, oui, d'accord. Bah, coup, oui, en effet, c'est pas dans. Donc, le machine learning, donc, c'est la technologie sur laquelle se repose en général tout ce dont vous entendez parler, qui est nommé intelligence artificielle, et qui est donc une base de calcul. Le but, donc, c'est d'établir des corrélations sur des grandes quantités de données pour faire des moyennes. Et donc, par exemple, dans le cas de ChatGPT, bon, c'est un peu plus compliqué parce que donc il y a plusieurs entités qui sont mises en jeu, mais le but est toujours de, sur une base de moyenne et de corrélation, pouvoir générer, prédire ou produire quelque chose. Et donc, ça peut être très simple, comme des calculs qu'on apprend à l'école, comme une régression linéaire, juste il y a une corrélation, plus il y a de ça, plus il y a de ça, jusqu'à des calculs qui sont extrêmement compliqués et qui s'additionnent les uns sur les autres et sur lesquels c'est très compliqué humainement d'avoir une visibilité et une compréhension.
Oui. Vous parlez des entreprises, c'est celles qui fabriquent les... J'y arrive. C'est exactement ce dont j'allais parler. Du coup, oui, sur donc la VSA, d'où elle vient? Elle vient, nous, ce qu'on a vu, c'est pourquoi elle a émergé. C'est qu'il y a trois types d'acteurs qui ont intérêt à ce qu'elle émerge. Il y a des intérêts économiques, donc je vais en parler, les entreprises, des intérêts autoritaires pour la police dont on a parlé, et ensuite des intérêts pour les décideurs publics, des intérêts plutôt électoralistes. Faut savoir qu'avant même la VSA, il y avait déjà un énorme marché de la sécurité, que ce soit la sécurité privée ou des caméras, mais c'est un business comme un autre. J'ai quelques chiffres là. En France, le secteur de la vidéosurveillance, de la sécurité, pardon, c'est 34 milliards d'euros. Et dedans, la vidéosurveillance, c'était 1,7 milliard d'euros. Et donc, dans ce marché, apparaît la vidéosurveillance algorithmique, qui est vraiment... Le produit de on va utiliser l'IA, l'innovation, plus on surfe sur ce sentiment d'insécurité. Et là, je parle comme si j'étais une entreprise. Et hop, on produit une solution magique qui est la vidéosurveillance algorithmique. Donc, il y a vraiment de la part des entreprises vraiment une opportunité qui se crée, voilà, avec ces nouvelles technologies, avec le machine learning qui s'améliorait sur les images. Et donc, c'est aussi ce qu'on a, avec notre initiative Technopolis, on a voulu documenter, en fait, qui sont les acteurs derrière ces projets qui sont vendus ensuite aux villes. Donc, il peut y avoir des très grandes entreprises, et en France, souvent, qui viennent du complexe militaro-industriel. Il y a Thales, il y a IDEMIA aussi, qui est vraiment leader dans le monde sur ce genre de technologie, et notamment la reconnaissance faciale. Mais il y a aussi pas mal de petites start-up, souvent qui reçoivent des financements publics, genre de la Banque publique d'investissement ou des financements de recherche. Alors là, il y en a un paquet. Elles ont tous des super noms. Il y a 22, 2i, Videtix, Wintix. Enfin, voilà, c'est souvent des pas très grandes entreprises, mais qui ne font que ça. Alors que Thales va avoir plein de branches, etc. Du coup, il y a des entreprises étrangères, comme on l'a dit. Il y a Briefcam qui est très présente en France. Il y avait IBM qui avait vendu aussi. C'est un des premiers projets qu'on avait vu à Toulouse, la VSA, mais qui s'était assez vite retiré. Du coup, en fait, il faut comprendre que c'est un marché. Donc, dans le sens où la technologie, elle s'améliore. Et donc, en vendant à des villes, ensuite, elles permettent d'améliorer leurs algorithmes, leurs logiciels. Il y a des partenariats aussi. Par exemple, je pense à 22 qui a fait un partenariat avec la ville de Suresnes en région parisienne, où vraiment, Suresnes avait filé les clés du CSU. En mode, vous pouvez aller expérimenter, prendre toute notre ville en cobaye, et nous, en gros, on a le logiciel gratos. Enfin, c'était à peu près ça. Et après, les algorithmes, ils s'améliorent, ils sont vendus ensuite à l'international. Et il y a des entreprises, dans ces entreprises-là, il y en a qui font de la VSA en France, mais ailleurs, elles font d'autres types d'algorithmes, et notamment des algorithmes de reconnaissance faciale. Ensuite, qu'est-ce qu'achètent ces logiciels ? C'est, on l'a dit, c'est les villes, les collectivités, les départements. Et elle, en fait, pareil, c'est pas nouveau avec la VSA, les villes. Il y a des enjeux électoraux, politiques énormes à se montrer sur les questions de sécurité. En disant, parce qu'il y a une demande aussi grande qui a été nourrie, qui a été construite depuis des décennies, on pourra en reparler, mais sur voilà, cette question du sentiment d'insécurité, en fait, qui a été créé un peu dans les politiques de sécurité dans les années 70-80. Avant, on faisait juste on recherchait juste les auteurs d'infractions. Et après, on a commencé à prendre en compte le sentiment des gens par rapport à ces infractions. Et ça a été pris en compte dans les politiques publiques, nourri ensuite avec par les pouvoirs publics aussi, après les faits divers, par des effets d'annonce, etc. Donc cette question du sentiment d'insécurité, elle est hyper présente aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'on a de plus en plus de caméras. Parce qu'on en reparlera, mais les caméras, aujourd'hui, il y a de plus en plus de chiffres qui montrent que ça ne marche pas. Mais ça rassure. Et du coup, souvent, enfin, la plupart du temps, les maires des villes mettent des caméras pour dire « Ah, mais voilà, je fais des choses pour la sécurité. » Et c'est encore mieux s'ils le font un an avant l'élection municipale. Et donc, avec la VSA, c'est non seulement ils rassurent, et en plus, ils sont super modernes. Et donc, il y a vraiment l'idée de surfer sur l'image de progrès. Donc, c'est vraiment des cibles super faciles pour les entreprises. Et enfin, le troisième type d'acteur qu'on a repéré, on en a parlé, c'est la police, l'institution qui utilise ces logiciels et qui va pouvoir décupler ses pouvoirs de surveillance et de répression. Et qui, du coup, c'est un peu un cercle parce que après. Toute cette logique un peu technosécuritaire s'alimente et le sentiment d'insécurité est nourri et donc il faut toujours plus de caméras et de logiciels et donc la police utilise plus. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on arrive à toujours plus de surveillance.
Donc du coup là on a vu un peu par où ça a émergé et quelles ont été les impulsions premières qui ont mené au déploiement de la VSA et en fait il y a un autre levier qui est extrêmement présent Je ne sais pas depuis combien de temps vous entendez parler de la VSA, mais c'est plutôt une technologie qui n'est pas très connue. Déjà, les gens ne voient pas trop ce que c'est. Généralement, les gens voient ce qu'est la reconnaissance faciale parce que on en parle beaucoup. Il y en a beaucoup dans la science-fiction, que ça, il y a tout un imaginaire très fort nourri autour de la reconnaissance faciale. Mais sur les autres usages d'analyse algorithmique de vidéo, beaucoup moins. Et en fait, c'est aussi beaucoup sur le fait, ce que nous on appelle l'opacité généralisée autour du déploiement de la technologie, que tout ça a pu se faire et faire qu'aujourd'hui ça peut vous arriver, enfin ça nous arrive à tous, de passer sous une caméra sur laquelle il y a de la vidéosurveillance algorithmique. Parce que donc du coup, on l'a dit, du coup c'est les décisions de mise en place de la VSA, elles se font plutôt à l'échelle des collectivités, à l'échelle des villes, des régions, etc. Et donc déjà, on a en premier le levier d'opacité qui est cette opacité administrative. Le fait que c'est très difficile de savoir que à une certaine échelle administrative, une décision a été prise de mettre de la VSA. Donc nous, on a investi beaucoup la demande CADA, donc c'est des demandes d'accès aux documents administratifs qui permettent d'avoir accès aux procès-verbaux, aux appels d'offres, ce genre de choses qui se passent donc que ce soit dans les conseils municipaux, régionaux, et dans lesquels on peut voir que les décisions ont été prises. Ensuite, on a un deuxième niveau d'opacité qui fait que c'est même une fois qu'on sait que la VSA existe, on sait des terres pour aller faire une demande CADA et on sait qu'il y a eu mise en place de VSA à un endroit. Donc éventuellement, on a même le nom de l'entreprise. Donc ensuite, il y a toute la question de l'opacité technique. Je vous ai détaillé un petit peu tout à l'heure le fonctionnement technique qui fait que c'est pas une technologie aussi facile à appréhender avec ses spécificités et tout. Mais là, en plus, une fois qu'on a le nom de l'entreprise, si on veut savoir ce qu'elle permet réellement de faire, on n'a pas beaucoup de moyens, quoi. C'est vraiment très opaque pour savoir quels sont les algorithmes investis par l'entreprise, quelles sont les fonctionnalités qui sont présentes dans le logiciel, etc. Éventuellement, nous, ce qu'on a pu faire pas mal, c'est d'aller voir sur les sites de ces entreprises pour lire leur com. Et alors évidemment, là aussi, ça ne va pas être une description fidèle du produit. On va avoir droit à tout un vocabulaire précisément pour arriver à vendre la technologie. Parce que c'est un discours marketing qui est écrit pour les collectivités. Et donc, ils mettent en avant certains usages, ceux qu'ils ont envie. Et donc, ça fait qu'on peut voir différents types d'entreprises, celles qui vont être en mode cibler peut-être plutôt les mairies de droite à la Brifcam, qui vont mettre en avant la reconnaissance faciale, les choses comme ça, et puis d'autres qui vont être sur un angle un peu plus smart city, comme ça va être le cas de Wintix ou de 22 par exemple, qui elles vont être plus en mode on repère les dépôts d'ordures sauvages, enfin ils vont essayer de trouver des manières de présenter le logiciel qui vont être plus friendly et bien dire qu'il n'y a pas d'atteinte aux libertés, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est très difficile en tant que personne qui habite à un endroit de savoir que fait le logiciel qu'utilise la ville. Et puis le dernier niveau d'opacité, et c'est sûrement le plus inquiétant, c'est l'opacité pratique. C'est-à-dire qu'en fait, donc, les entreprises qui déploient ces logiciels-là, elles les vendent sous la forme d'un package. Donc, par exemple, imaginons une mairie qui prendrait, qui achèterait le logiciel pour faire de la détection de dépôts d'ordures sauvages. En fait, elle va se retrouver, elle va donner à sa police tout un éventail d'actions. Et là, c'est absolument impossible de savoir comment est-ce que la police va l'utiliser. Cette fonctionnalité peut être détournée de son usage principal. Les usages sont extrêmement vastes. Et donc, du coup, peut-être que là, c'est le moment de reparler un peu de Brifcam. Donc, en décembre dernier, il y a le média d'investigation Disclose qui a sorti une enquête qui montre que la police utilise la fonctionnalité de reconnaissance faciale qui est présente dans le logiciel en toute connaissance du ministère de l'Intérieur, alors que évidemment hors de tout cadre légal. Et nous, on savait que cette fonctionnalité existait puisqu'on avait obtenu le manuel d'utilisation de Brifcam quelques années auparavant. Simplement, on pouvait rien faire de cette information. Et donc, il a fallu un investissement lourd d'un média d'investigation, etc., pour savoir que ça se fait réellement. Alors que, on peut assez instinctivement se dire que la police utilisera tous les usages qu'elle pourra faire de ce logiciel, je pense. Et donc voilà, donc vraiment on a une opacité à tous les niveaux, administratifs, techniques, pratiques. On ne peut pas savoir réellement ni ce qu'est la VSA, ni ce qu'elle fait, ni où est-ce qu'elle est. Et voilà, donc c'est vraiment là-dessus que beaucoup, c'est reposé le déploiement, sans contestation, malgré le fait qu'on ait essayé de la pousser un peu, de la VSA.
Et on en reparlera après, mais justement, cette opacité, c'est dans les choses à faire et les moyens de lutter. Il y a vraiment. C'est souvent le premier truc. C'est d'abord sortir de l'opacité, savoir ce qui se passe. Et il y a pas mal d'outils pour ça. Pour un peu terminer sur cette première partie de c'est quoi, du coup, on l'a dit, ça s'est déployé. Et tout ça de façon, en fait, totalement illégal. Aujourd'hui, alors sans rentrer dans le détail juridique, il y a un cadre pour les caméras classiques et il n'y a rien sur la VSA. Et en fait, à partir du moment où il n'y a rien, il y a juste du droit des données personnelles et donc ça veut dire que c'est interdit. Et ça, les entreprises, elles ont surfé un peu là-dessus pour dire « Ah, mais c'est pas vraiment autorisé, donc c'est pas vraiment interdit, etc. » Et donc... toutes ces villes et toutes les villes qui achetaient, toutes les entreprises qui vendaient, l'ont fait en fait sur aucune base légale. Donc, nous, on a toujours dit que c'était illégal. On a essayé de faire quelques procès qui sont encore en cours dans des villes, notamment à Marseille, etc. Mais il y a en fait, c'est surtout qu'il y avait aucune envie, aucune volonté politique de la part des pouvoirs publics d'empêcher ça. Parce que tout le monde savait que c'était illégal, la CNIL savait que c'était illégal, au début elle a un peu accompagné, après elle a dit non, peut-être pas chaud, on fait une consultation publique, donc ça c'était il y a 2 ans sur le sujet, donc là on avait récupéré les réponses, mais en gros tout le monde y allait de sa petite réponse, donc que ce soit les grosses boîtes, la SNCF, etc., pour dire mais si c'est génial la VSA, légalisons. Donc là la CNIL a sorti une position en disant effectivement c'est pas vraiment légal, il faudrait une loi. Mais en parallèle, il faut savoir que le ministère de l'Intérieur a une direction, alors j'ai plus l'acronyme, mais en gros une direction liée à l'innovation qui bosse avec ces entreprises. En fait, ça fait 10 ans que vraiment ça fait partie du ministère de l'Intérieur de se dire on va déléguer à des entreprises, on veut des entreprises de sécurité à la française, on va investir là-dedans. Enfin voilà, c'est une politique publique du ministère de l'Intérieur de bosser avec ces entreprises-là. Il y a par exemple, pour vous donner une idée du contexte, il y a un lobby de la vidéosurveillance qui s'appelle l'AN2V, ce sont de belles personnes, qui organisent souvent des réunions. Et il y en avait une là, cet automne, et c'était en ligne, et donc je me suis incrustée. Et donc, c'était le lobby qui invite la meuf du ministère de l'Intérieur et la CNIL pour conseiller les directeurs de sécurité des entreprises. Donc, il y a vraiment, en fait, plutôt une volonté d'accompagner ces entreprises-là en leur expliquant comment être conformes. Et d'ailleurs, il y avait un moment hyper, de flottement où ils disaient sur la VSA a posteriori, ouais, non, c'est pas trop légal. Et les directeurs de sécurité qui s'énervaient dans le chat et tout, enfin bref. Et la meuf de la CNIL qui arrivait pas à dire que c'était pas vraiment légal. Et parce qu'en fait, fallait préserver ces intérêts-là. Donc, en fait, la CNIL, elle a des pouvoirs de contrôle qu'elle n'a jamais utilisés. Et donc, ça, on a beau dire que c'est illégal, enfin, il n'y a pas que pour la VSA. Si personne dit stop ou contrôle ou décide de poursuivre en justice, l'illégalité, elle continue. Et en parallèle, sachant qu'en parallèle, donc voilà, j'ai parlé de la consultation de la CNIL qui a dit il faut une loi et je vais y arriver. Et il y avait aussi tout un tas d'autres acteurs institutionnels, des parlementaires, etc., qui n'arrêtaient pas de faire des. Enfin, à peu près un par an, il y a eu des rapports. Pour dire « Ah, faudrait essayer la reconnaissance faciale, ah, faudrait essayer la vidéosurveillance algorithmique », voilà, tout ça, des rapports parlementaires, et on voyait qu'en fait, pierre par pierre, ça commençait à se construire vraiment une pensée institutionnelle de « il va falloir un moment légiférer ». Et donc voilà, ça s'est pas apparu là aujourd'hui, en fait, ça fait longtemps qu'il y en a qui veulent. Il y avait Cédric O, l'ancien ministre du Numérique, qui avait assumé de vouloir faire de la reconnaissance faciale à la française. Parce que souvent, voilà, on dit « Oh non, la Chine, c'est mal, les États-Unis, Israël, c'est mal, faisons de la surveillance souveraine, blablabla. » Tout ça pour dire que, après tous ces coups de pression, on est arrivé finalement à une loi, qui est la fameuse loi sur les Jeux Olympiques, qui a été adoptée l'année dernière. Donc, je vais en parler très rapidement, juste pour qu'on sache à peu près, en gros, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Ils ont décidé, du coup, d'y aller petit à petit. Vraiment, il y a quelques années, il y avait des volontés d'aller direct à la reconnaissance faciale, puis finalement, ils se sont dit, non, on va faire que la VSA. Et en fait, c'est vraiment dans des stratégies d'acceptabilité d'y aller par petits pas. Alors, et ça, on va en reparler après dans la partie un peu campagne, alors qu'il y a encore tout le bordel illégal, on s'est dit non, on va légaliser une toute petite partie, on va le faire hyper bien, de manière hyper circonscrite, et en fait, on va focus l'attention là-dessus, et comme ça, on voit pas tout le reste. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec la loi sur les JO, qui légalise, du coup, l'usage par les préfectures de police, enfin, par les préfectures, de 8 cas d'usage, pour tout. Alors, on pense loi sur les JO, mais en fait, c'est que le nom. C'est pour tout événement récréatif, sportif et culturel jusqu'en mars 2025. Donc, pas du tout que les JO. Donc, on en reparlera. Là, ça vient de commencer. Il y a eu concert de Taylor Swift, PSGOL, le Festival de Cannes. Donc, ça peut totalement arriver dans vos villes. C'est pas du tout que les JO et les 93. Et ça, nous, on l'avait dit dès le début que c'était une énorme instrumentalisation de cet événement. Et en fait, chaque pays qui accueille les JO utilise cet événement pour faire passer des dingueries sécuritaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, en instrumentalisant cet événement qui est exceptionnel au sens premier du terme, qui n'arrive jamais, eh ben, on fait passer une loi d'exception. Ça, c'était l'année dernière. En plus, c'était en plein mouvement contre la réforme des retraites, donc ça a été assez, assez inaudible. Et donc, je reviens à ce que j'expliquais. Donc, c'est 8 cas d'usage jusqu'en mars 2025. Et donc, les 8 cas d'usage, alors attention, test, c'est... densité trop importante de personnes, voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire, mouvement de foule, Marne en parlait, détection de port d'armes, personne à terre, mais la CNIL a dit, personne à terre, ça peut être des SDF, donc personne à terre après une chute. Donc voilà, il faut trouver quelqu'un qui tombe. Il y a bagages abandonnés, et ça, c'est le nerf de la guerre. Il y a, vas-y, je sais plus.
Départ de feu. Circulation à contresens.
D'une personne ou d'une voiture. Donc si vous marchez à contresens, attention. Et le huitième.
Ah, ils nous ont manqué.
Franchissement de ligne.
Et
celui-là, c'est le seul qui marche un peu. Bien. Donc c'est vraiment, en gros, si on a l'image. Et on trace virtuellement une ligne, par exemple, là, et sur le logiciel. Et si je passe là, ça fait une alerte. Donc, ça, c'est huit cas d'usage. Et donc, là, pendant un an, les préfectures peuvent dire, bah voilà, j'ai été cet événement, je suis préfet à Strasbourg, il y a le marché de Noël de Strasbourg, je veux le logiciel qui fait détection de port d'armes. Et du coup, on choisit, il y a un arrêté préfectoral, il peut l'utiliser. Et les agents, enfin les personnes qui peuvent l'utiliser, si je dis pas de bêtises, c'est police nationale, gendarmerie nationale, police municipale, RATP, SNCF, peut-être les pompiers pour le départ de feu, je sais plus. Voilà. Et ben, je vais en reparler là dans 2 secondes, les transports, c'est un gros truc. Donc là, ça a commencé. Donc là, et c'est ce dont on veut parler juste après sur comment lutter et comment investir ces moments d'expérimentation. Pour faire des choses. Peut-être rapidement aussi dire que du coup, vu qu'ils étaient quand même un peu en balise de « Ok, il faut faire les choses bien », ils ont dit « C'est une expérimentation pour un an avec une évaluation à la fin, un comité d'évaluation et blablabla et blablabla. » Mais on se doute que ça va être pérennisé pour tout ce qu'on vous a dit avant, les intérêts en question, toute la thune qui a été mise dedans. Puis en fait, voilà, les volontés affichées depuis des années en fait, d'aller plus loin. Donc il y a un comité d'évaluation, on a essayé d'être dedans, ils ont dit non et ils nous ont pas répondu parce qu'il y avait dans la composition, ils mettaient qu'il y avait derrière une association de défense des libertés. On sait pas, mais on le rencontre bientôt, le président là, mais on sait pas, ça a pas été public finalement qui était dedans. Du coup il y a des, bon c'est du détail, mais en gros le comité d'évaluation, il y a deux sous-comités, un avec du coup des personnalités qualifiées, donc des profs de droit, des techniciens, des assos, et un comité utilisateur, donc en gros avec ceux qui vont utiliser la VSA, donc les keufs et tous les keufs, quoi. Et du coup, voilà, donc ça, il y aura une évaluation à la fin. Et ce qui est intéressant quand même, on va en reparler, c'est que dans les critères de voir si ça a marché, pas marché, ça, combien il y a eu d'interpellations, blablabla, et il y a... c'est quoi la formulation exacte ? L'impact sur les libertés et la vision par le public de cet impact, la perception. Donc, la perception du public de la VSA va être prise en compte. Et c'est là aussi où on se dit qu'il y a peut-être des trucs à faire pour montrer qu'on perçoit mal. voilà. Du coup, c'est là où on en est. Et dernier truc, et après, on va avoir fini un peu cette grosse première partie sur c'est quoi la VSA. C'est que, justement, ils ont dit ah oui, non, donc les débats parlementaires, c'était on fait une expérimentation et vraiment on ira plus loin que après l'évaluation, promis. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, y a déjà une nouvelle loi à l'Assemblée nationale qui est en train d'être votée maintenant. Cette fois-ci, pour donc, si vous vous souvenez du début de tout à l'heure, sur une autre forme de VSA qu'est la VSA a posteriori, donc pendant les enquêtes, le fait en gros. Les magnétoscopes super, quoi, qui permettent de sélectionner des trucs. Et ça, c'est déjà hyper utilisé par la police. Et donc, ils ont utilisé un texte qui avait été proposé par un sénateur de droite, LR, un truc tout pourri, sur la sécurité dans les transports. Et ils ont utilisé cette manière-là pour rajouter un truc. Donc ils ont copié-collé ce qui était prévu pour la loi JO, mais ils ont dit « Ah, mais là, on va faire la VSA en temps différé ». Pour les transports, donc ça veut dire c'est que RATP SNCF qui pourrait utiliser ça jusqu'en 2027. Donc voilà, pour les réquisitions de la police, utiliser ces logiciels qui permettent de classer les personnes, voilà, que des hommes, que des femmes, que des personnes en bleu ou des choses comme ça. Donc et ça permet, enfin techniquement, ça permet de retrouver quelqu'un, de retrouver tout son parcours dans une ville. Enfin, la VSA a posteriori, elle est hyper dangereuse. Enfin, toutes les VSA sont dangereuses, mais vraiment la VSA a posteriori, c'est ce qui permet de rechercher dans une image. Hyper rapidement des caractéristiques physiques, et en fait pour nous visage ou non, en fait il y a notre silhouette, nos habits, c'est hyper identifiant, donc ça c'est vraiment de faire de la filature sur plusieurs images. Et donc là, ça voilà, il y a une proposition de loi de sécurité dans les transports qui est en train d'être discutée en ce moment. Et du coup, ils ont même pas attendu un an pour avouer qu'ils avaient menti, quoi. Et du coup, voilà. Et parce qu'en fait, les transports, on en reparlera juste après. C'est un énorme terrain de jeu sécuritaire et notamment de surveillance. Et on le voit d'ailleurs sur cette proposition-là et tous les trucs où ils utilisent tous les faits divers de ces derniers mois, des agressions dans les transports, etc. Mais du coup, c'est vraiment un nouveau terrain de jeu aussi. Pour toujours plus de caméras. Et RATP, SNCF sont vraiment des méga pionniers de ça. Ils veulent. Enfin, on prend le métro à Paris, on le voit, mais même en termes de lobbying, ils poussent énormément pour ça. Avec ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, leur problématique du bagage abandonné, où je pense qu'ils rêvent en fait, d'un logiciel qui marche pour trouver ça. Mais ce qui fait qu'il. Enfin, il n'y a évidemment pas que ça, mais c'est ça qui les pousse beaucoup. Voilà, donc ça, c'est là où on en est aujourd'hui, je sais pas combien mai, 16 mai 2024. Il y a la loi JO qui est adoptée, qui permet en fait un tout petit spectre d'usage d'être légalisé. Il y a tout le reste illégal qui continue à être utilisé. Et ils sont en train déjà de faire passer une deuxième loi en ce moment sur la VSA a posteriori dans les transports. Tu veux conclure avant le.
Ouais. Non, ouais, j'aurais bien rajouté, parce que du coup, là, on a un peu plus détaillé ce qu'il y a dans la loi, et en fait, le fait de regarder tous ces cadres, et le fait qu'il y a des critères d'évaluation et tout ça, ça peut nous faire nous prendre au jeu, mais il faut aussi prendre un peu du recul. Donc, ces petites expérimentations, là, donc, dans le cadre de la loi JO, qui sont sur ces 8 critères, très délimités dans le temps, bon, c'est annoncé à l'avance via des arrêtés préfectoraux, et en fait, tout ça, c'est beaucoup plus une stratégie de légalisation que de réels tests. En fait, oui, ils vont nous faire toute une histoire sur les tests qu'ils auront faits et machin, mais en réalité, on parle d'une technologie qui est dans plus de 200 villes utilisée par la police régulièrement. Et donc, en fait, les entraînements de ces algorithmes, ils se font déjà ailleurs. Et donc, en fait, il y a aussi tout ce truc de voir que ça, c'est une démarche assez malhonnête, et la PPL Transport qui débarque assume un peu presque cette malhonnêteté de ne même pas attendre la fin des soi-disant expérimentations et de leur soi-disant évaluation pour lancer la suite. Et donc du coup, en réalité, les dangers principaux, ils se jouent plutôt du côté de la VSA qui est illégale et qui est très répandue, quoi.
Et du coup, l'idée, après, c'est qu'on veut vous parler de comment lutter contre cette VSA illégale et les expérimentations JO, etc. Mais est-ce qu'avant, vous voulez poser des questions sur la VSA, comment ça marche, tout ça, ou ce qu'on a dit? Est-ce que vous avez des questions de compréhension ou autre, ou rien à voir? ou on passe à la suite, comme vous voulez. Oui, ah, bah, il y en a, oui. Je crois que... Non, c'est... Alors attends, je peux la répéter sinon dans le micro pour le. C'est la question, c'est illégal, ils font ce qu'ils veulent, il y a aucun recours. À peu près. C'est ce que je disais en fait, c'est que c'est illégal et à partir du moment où les pouvoirs publics assument que de rien faire, bah du coup c'est un peu à nous de faire des choses. Donc les recours, on a essayé de faire des trucs en justice. C'est un peu la galère souvent sur des points de vue de procédure en fait, de prouver que le logiciel est utilisé. Enfin pour l'instant ça fait voilà, mais en gros à partir du moment où où il n'y a aucune volonté des pouvoirs publics d'arrêter, bah c'est aux assos et aux personnes. Déjà, c'est ce que disait Marle, déjà, il faut aller chercher l'information, ce n'est pas normal qu'on ne soit pas au courant. Et une fois qu'on va chercher l'information, on va contester. Mais oui, en fait, mais ça a été des stratégies pendant des années de dire que, de minimiser en fait, l'impact de la technologie, aussi pour dire que c'est légal. Donc, ils ne vont jamais parler de reconnaissance de personnes, mais de situations ou d'objets. Ils vont dire, mais non, il n'y a pas de traitement de données biométriques. Alors, pour nous, à partir du moment où il y a une reconnaissance du corps, enfin, c'est des détails juridiques, il y a des données biométriques. En fait, il y a eu toute une stratégie marketing, lobbying, etc., pour minimiser ce qu'est la VSA. Mais du coup, les seuls recours, c'est nous, d'aller en justice, mais comme malheureusement beaucoup d'autres sujets pour arrêter des. C'est comme des projets environnementaux illégaux. Enfin, souvent, ils vont jusqu'au bout, jusqu'à ce que le tribunal dise ah bah non, c'est pas légal. Et,
ouais. Ouais, moi j'avais deux petites questions. La première, c'était est-ce que vous savez si dans certaines villes qui s'équipent de VSA, en fait, est-ce que l'algorithme, forcément, tu l'appliques à toutes tes caméras de ta ville ? Ou est-ce que ça, parfois c'est que sur certaines caméras ou certains quartiers ou seulement à certains moments ? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des villes qui ont publiquement refusé ?
Alors, je peux commencer par la deuxième et tu prends la première. Il y a Montpellier qui a fait passer une délibération en disant on ne veut pas de surveillance biométrique. C'est symbolique. Mais c'est déjà ça, et on va en reparler dans la campagne. C'est un truc qu'on veut un peu pousser, même si c'est symbolique. En fait, tous, allez demander à vos maires de prendre ces positions-là. C'est du rapport de force, mais en fait, ça peut faire avancer. Nous, l'année dernière, on avait fait une pétition d'élus contre la vidéosurveillance. Bon, ça a quand même beaucoup des élus d'opposition qu'on signait, mais il y a eu des centaines de signatures. Mais voilà. Mais il y a la ville de Montpellier qui a créé un précédent, et je crois qu'il y a Montreuil qui veut aussi.
Et oui, sur la première question, non, c'est très modulable. C'est tout à fait possible de n'appliquer la VSA qu'à certaines caméras ou de le faire à toutes. C'est différent pour la VSA en temps réel et a posteriori. Mais par exemple, a posteriori, justement, c'est très important de pouvoir choisir uniquement certaines vidéos pour faire la recherche et de ne pas le généraliser à l'ensemble. Donc en fait, oui, ça se paramètre dans le logiciel et il n'y a pas de... Ça dépend des entreprises. Après, bon, c'est des informations qu'on a de WeDir et tout ça. Moi, j'ai jamais utilisé le logiciel moi-même. J'aimerais beaucoup, mais voilà. On a pu avoir des captures d'écran, des choses comme ça, ou des reportages qui ont lieu dans les CSU où on voit des bribes d'usage. Mais sinon, c'est assez difficile d'avoir accès au logiciel quand même.
Ouais, j'avais deux questions. Du coup, ceux qui bossent dans les CSU, c'est des agents de police ou c'est des agents... genre moi, je pourrais postuler pour bosser là-bas. Enfin, je vais pas le faire, mais c'était pour... Et la deuxième, c'était... du coup, pour comprendre, quand une ville, par exemple, elle veut installer ses caméras, des caméras comme ça dans la ville, si derrière, il y a besoin de la police aussi pour traiter, ça veut dire, comment ça se passe ? Genre, ils appellent le commissariat, ils disent, OK, ça vous va, on installe ce nombre de caméras dans cette ville, ou juste c'est une décision qu'ils font eux seuls comme une décision politique ?
Alors, du coup, ta première question, c'était, ah oui, qui sont les gens dans les CSU ? Je pense que c'est pas toujours des policiers, parfois oui, mais parfois c'est des agents municipaux, voilà, c'est des fonctionnaires. C'est pas forcément, mais parfois oui.
Police municipale aussi.
Oui. Mais ça dépend en fait aussi, parce que les CSU, ils ne sont pas toujours installés à la même taille. Donc, peut-être ça va répondre un peu à une partie de ta deuxième question. Souvent, quand c'est pour des plus petites villes, ça va être, on va prendre une agglomération de communes pour installer le CSU. Comme ça, oui, ça on agrège tous les flux des caméras de vidéosurveillance de plusieurs villes vers un même CSU. Et du coup, on ne fait le travail qu'une fois. Et pour la manière dont l'alerte est envoyée à la police, je ne sais pas trop, c'est la manière qu'ils ont déjà de base dans le fonctionnement classique sans VSA, c'est de prévenir la police quand ils voient quelque chose, ils doivent avoir un canal dédié, mais pareil, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai répondu à toutes tes questions.
Oui, je répète juste la question dans le micro rapidement pour la radio. C'est sur la vidéo-verbalisation qui se généralise. Et est-ce que du coup, il y a un risque que ça s'étende à ça, en très résumé, ce que tu viens de dire. Du coup, pour ceux et celles qui ne savent pas, la vidéo-verbalisation, donc c'est autorisé pour un certain type d'infraction aujourd'hui que routière. C'est le fait de pouvoir en fait constater une infraction, l'agent de CSU constate l'infraction derrière son écran et envoie directement le PV. C'est faisable avec les infractions routières parce qu'il y a la plaque d'immatriculation. Donc ça, c'est le principe légal. Et il y a du coup, là aussi, un business qui s'est fait de lecture automatique de plaques pour faire de la vidéo-verbalisation. Et ça, souvent, c'est illégal. En fait, il n'y a pas n'importe qui peut l'utiliser. Et la CNIL a pu sanctionner des villes ou même il y a eu des décisions de justice parce que je crois que c'était... soit a été utilisé pour des infractions qui n'étaient pas dans le champ des infractions vidéo-verbalisables, etc. Mais il y a il y a un marché de ouf, à nouveau pour ces technologies. Les infractions routières, c'est de la thune aussi beaucoup pour l'État. Donc on pense que la vidéo-verbalisation va s'étendre déjà à probablement plus d'infractions routières déjà. Et c'est ce qu'on disait. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas... Heureusement, il n'y a pas sauf les infractions routières, il n'y a pas d'automatisation de mise à l'amende, etc. Et c'est très possible, effectivement, qu'on aille vers là. Alors après, pour que ce soit pour des personnes, il faudrait... Enfin, quoique non, et en plus, oui, j'allais utiliser un exemple, et notamment un exemple à Dijon. Je veux dire, il faudrait de la reconnaissance faciale, mais pas nécessairement. Il y a eu quelques exemples de personnes qui se sont pris des amendes, notamment, donc je crois que si je dis pas de bêtises, c'est l'année dernière pendant la réforme, le mouvement de la réforme des retraites, des personnes qui ont manifesté à Dijon et qui ont reçu une amende directement chez eux. Et ça, c'est totalement illégal. Et les flics disent que ils les connaissaient. Sauf qu'en fait, il y avait des personnes, si je dis pas de bêtises, qui n'étaient pas du tout des syndiqués connus, etc. Donc la question s'est posée de est-ce qu'il y avait de la reconnaissance faciale. Pareil, au moment du Covid, du confinement. Il y avait eu des manifs anti-pass ou je sais plus quoi dans des petites villes où pareil il y a des gens qui ont reçu des amendes directement chez eux, ce qu'on appelle les amendes sans contact, nous, plutôt que vidéo-verbalisation. Et il y en a qui ont contesté ces amendes et qui ont gagné parce qu'aujourd'hui ce n'est pas légal. Mais donc ces exemples-là, à nouveau, ça rejoint ta question d'illégalité. En fait, ils font voilà, il y a des trucs illégaux, il y en a tout le temps. Montre qu'en tout cas il y a une volonté. Donc pour l'instant, si ça arrive, faut aller contester ces amendes, mais il y a une vraie volonté d'automatiser le plus possible la répression, quoi. Donc dans des villes où tout le monde se connaît, ça pourrait être fait OK par reconnaissance. Enfin, ça pourrait être fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils défendent, mais en fait avec ça couplé à la reconnaissance faciale, c'est possible. Plus on voit aussi dans les logiques judiciaires, je sais pas si vous avez suivi, il y a maintenant une extension de ce qu'on appelle l'amende forfaitaire délictuelle. Notamment on a pas mal parlé parce que c'est appliqué si on fume un joint, qui est donc en fait plutôt que de on constate l'infraction puis ensuite on a un procès, c'est le flic peut directement constater et c'est à nous d'aller contester l'amende. Et en fait derrière ça, enfin c'est beaucoup les syndicats d'avocats et de juges qui ont contesté ça, c'est vraiment une automatisation de la justice où on renverse la charge de la preuve. Donc on voit qu'en fait à plusieurs égards, que ce soit technologie ou dans l'institution judiciaire, il y a une volonté voilà d'accélérer cette automatisation. Donc oui, non, ces craintes, on les partage. On passe à la suite. Je sais pas quelle heure il est. Ouais. Tu veux commencer? C'est ouais. Parti, on ne s'est pas réparti la parole.
Ouais, bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc du coup, on a parlé de la loi JO et on a dit que en fait, c'était plutôt une stratégie, un pied dans la porte pour légaliser la VSA et des pratiques qui sont déjà en place. Mais bah, nous, on s'est dit que c'était aussi un moment, du coup, où déjà il y aurait une plus grande sensibilité médiatique au sujet, puisqu'il est poussé par le cadre légal, qui a les premières expérimentations, et qu'il y a d'ailleurs un intérêt de la part des journalistes qui est assez grand. Et que donc, du coup, en fait, c'était peut-être un moment, parce que ça fait quand même, nous, ça fait 5 ans qu'on documente la VSA, qu'on essaye, qu'on crie que c'est dangereux et que ça n'aboutit pas à grand-chose, et on a vraiment du mal à avoir de l'écho sur ce sujet-là. Et là, bon, bah, du coup, on a cette loi qui, éventuellement, peut nous donner une opportunité de faire parler du sujet. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait saisir cette opportunité pour faire une campagne, parce que, bon, alors, normalement, pendant les expérimentations, il y a un devoir d'information qui fait que ceux qui posent de la VSA sont censés expliquer ce que c'est et que les gens qui passent en dessous comprennent les enjeux. Comme on s'en doutait, c'est un travail qui est très très mal fait et on s'est dit bah, peut-être que c'est l'occasion pour nous justement de faire ce travail d'information et en plus de le faire avec nos mots. Il y a une histoire qui est un peu rigolote, c'est que avant la VSA, ça ne s'appelait pas la VSA, ça s'appelait la vidéoprotection intelligente. Quand on a le tout premier projet qu'on avait regardé, c'était ça le nom, et puis ça nous allait pas du tout. Et bon, comme il n'y a pas beaucoup d'autres gens que la Quadrature du Net qui parlent de ce truc-là, bah nous on s'est mis à en parler en disant non, on va essayer de prendre un terme qui soit plus descriptif, un peu moins. Donc on a choisi le terme de vidéosurveillance algorithmique, et comme on en a beaucoup parlé, et ben tout le monde s'est mis à employer ce terme. Maintenant, on entend des gens à la CNIL l'employer, les médias l'emploient, etc. Et c'est cool parce que c'est nous qui l'avons choisi. Et il est même entré dans le dictionnaire là. Ok. Cool.
Et juste ça rappelle, enfin, ce que disait Célia dans la discussion tout à l'heure. Les mots, c'est hyper important pour matérialiser ce qu'on parle, et la bataille des mots, c'est crucial.
Ouais, grave. Et ils le savent parce que eux aussi jouent beaucoup. Bon, c'est un autre petit écart, mais c'est à Orléans où ils ont fait une expérimentation. Où ils ont mis de l'audio surveillance algorithmique, donc des micros dans les rues pour capter, enfin repérer un certain type de bruit, etc. Et ça la faisait pas bien de me dire qu'on mettait des micros dans les rues, donc ils disaient qu'ils installaient des capteurs de vibration de l'air. Donc vraiment, ce jeu, voilà. Après ce petit, je vais essayer de reprendre le fil de. Ah oui, donc saisir l'opportunité du fait qu'il y a un événement médiatique autour de la vidéosurveillance algorithmique pour, avec nos mots et notre vision des dangers que qu'elle représente, la faire connaître au public et se servir du fait qu'il y a un relais des journalistes. Et donc, du coup, on a commencé un peu à élaborer toute une campagne qui aurait pour but précisément de dénoncer la malhonnêteté des Jeux Olympiques. Donc, que ce soit un exemple assez flagrant pour nous, le 21 avril, lorsqu'il y a eu la première expérimentation de vidéosurveillance algorithmique pour le match PSG-OL à Gare de Lyon. C'est parce que c'était PSG-OL qu'ils ont justifié le fait de mettre l'expérimentation à Gare de Lyon, parce qu'on passe par la Gare de Lyon quand on vient de Lyon. Bref, ils racontent leurs petites histoires pour justifier pourquoi ils mettent l'expérimentation à tel endroit. Et ben, en même temps, au même endroit, pendant la première expérimentation, il y avait aussi un autre projet de vidéosurveillance algorithmique illégale qui tournait, qui est un projet de la SNCF, enfin qui est pour la SNCF, qui est le projet Prevent PCP. Et donc du coup, on s'est dit que c'est vraiment le moment en fait de montrer la malhonnêteté de la démarche, que de faire croire que c'est une expérimentation extrêmement bien cadrée et ça a lieu à un endroit où en même temps il y a des usages beaucoup plus graves de la VSA. Et donc on s'est dit qu'on allait lancer une campagne. Et donc du coup, je vais peut-être te laisser parler de la phase 1 de la campagne, où tu voulais rajouter des trucs.
Ouais, peut-être dire. Il y avait l'idée de reprendre cette occasion médiatique pour parler du sujet, dépasser aussi voilà ce qu'on vous a dit, parce que il y a l'attention médiatique, mais si c'était pour se focus sur les 8 usages légaux, alors qu'ils continuent à avoir plein de choses illégales par ailleurs. En fait, le débat allait être stérile. Donc voilà, l'idée c'était de dépasser ça et à nouveau, comme quand on choisit nos mots, c'est aussi choisir le sujet et en fait dire non, en fait, on va aussi continuer de parler des choses illégales. informer, en fait, remettre une couche pour pouvoir voilà, informer les gens. Et après, on en reparlera. Et aussi, relancer un peu, permettre aux gens qui veulent se mobiliser, de se mobiliser. Et donc, on a lancé donc, cette campagne il y a 3 semaines, un mois, je ne sais plus. Et de dire en gros qu'on repartait à l'attaque, quoi, qu'on contre-attaquait en fait. Plutôt, ils nous attendent sur les 8 expérimentations JO, ben en fait non, on va tirer sur tout ce qui bouge et tout le reste. Et donc, notamment, comme disait Marne, on a pris un peu de manière symbolique Prevent PCP, donc qui est un projet qui a chopé des financements européens, mis en œuvre par la SNCF à Marseille-Saint-Charles et Gare de Lyon-Gare du Nord à Paris. Et qui vise en gros à toujours ces fameux bagages abandonnés, d'essayer de retrouver les propriétaires des bagages abandonnés. Donc techniquement, en fait, pour nous, c'est de la filature automatisée. Donc c'est essayer de retrouver, en fonction des caractéristiques physiques, à nouveau, les vêtements, etc., une personne qui aurait abandonné un bagage et de la suivre sur les images. Et donc ça, ça fait partie de tout le champ de toutes les dingueries illégales qu'on voit depuis des années. Et donc, on s'est dit qu'on allait attaquer ça pour montrer, en fait, vous avez beau nous dire qu'il y a la loi JO, en fait, il y a encore plein d'autres choses illégales, et notamment ça. Donc on a fait une plainte à la CNIL, c'était histoire de marquer le coup, on va voir si la CNIL fait son taf. Et au passage, on a lancé un site avec l'idée de mettre à disposition des ressources sur la VSA. Alors là, c'est le moment autopromo. On a fait une super brochure. Évidemment, on l'a pas, on n'a qu'un exemplaire, mais n'hésitez pas à l'imprimer. pareil, on a des affiches qu'on aurait voulu imprimer, qu'on n'a pas imprimé. On est vraiment ultra à l'arrache. Mais en gros, tout ce qu'on vous a dit là, en plus approfondi, est dans cette brochure. Donc, c'est quoi la VSA, d'où ça vient, les politiques sécuritaires depuis des décennies, les acteurs en présence. Il y a des magnifiques schémas faits par Marne. Et en fait, l'idée, c'était aussi que ce soit un truc qui reste pour quelqu'un qui veut approfondir sur la VSA et qui soit encore lisible dans quelques années. Et voilà. Mais donc ça, c'est plus à dire pour les personnes qui veulent vraiment approfondir. Et donc, ouais, sur le site, il y a ça. Et après, et là, on va rentrer un peu dans peut-être la deuxième phase de la campagne. On s'est dit aussi qu'on voulait donner des outils aux personnes qui veulent agir contre. Et en repartant, en fait, de l'idée de base de Technopolis, en fait, on l'a plus ou moins dit au début, avec cette campagne, vu que chaque ville a ses spécificités de surveillance. Donc voilà, il y a On Dijon à Dijon, il y a l'Observatoire de la Tranquillité Publique à Marseille. En fait, il y a à chaque fois des entreprises différentes, des projets différents. Ben, la lutte, elle peut être que locale. Et c'est aussi au niveau local qu'on agit le mieux. Tu demandais voilà, faire pression pour un maire, sur un maire pour qu'il interdise, etc. Et donc voilà, nous, au niveau national, on fait ce qu'on peut. On va aussi parler aux institutions quand il faut. Mais l'idée, c'est de faire ce qu'on peut pour donner des outils. Et après, la lutte, elle se fait au niveau local. Et notamment, voilà, avec ces expérimentations sur la loi JO, ça va être tout autant de moments où on peut aller... voilà, donc là, si on avait habité à Cannes, on aurait pu aller tracter au festival... Enfin, pas au festival, mais dans les rues pour dire aux gens qu'ils sont cobayes. On n'a pas eu le temps de le faire à Paris. Mais donc, comme on l'a dit... À Paris, pour l'instant, c'est que les transports qui s'en sont servis. Donc, ils utilisent des événements. Dans les arrêtés préfectoraux, si vous voulez les lire, c'est aussi une énorme dinguerie. C'est pour dire que l'événement est spécialement menacé par des risques de sécurité. Ils font tout un paragraphe. Donc ça, par exemple, pour un concert de Taylor Swift, où ils vont mettre de la VSA dans le métro, ils vont parler de toutes les attaques au couteau dernières, ils vont parler de la guerre Israël-Hamas, enfin, c'est tout un gloubi-boulga pour dire « Ah, il y a un risque d'attentat, utilisons la VSA dans le métro ». Je suis en train de perdre le fil de ma pensée, mais tout ça pour dire que ça peut arriver partout. Donc je sais pas forcément... ça va être voilà, Cannes, c'est le festival de Cannes, mais n'importe quelle ville, enfin, ça dépend de la volonté des préfets, peut décider d'utiliser la VSA, donc ça peut arriver chez vous, et c'est autant de moments pour se mobiliser. Et vas-y, parce que c'est totalement décousu ce que je dis.
Ensuite, la phase suivante de notre campagne, on aurait bien aimé tout sortir dès le début, mais on a décidé de sectionner en deux parce que, en fait, on a été pris de court par le début des expérimentations, etc. Le fait que, bon, par exemple, l'expérimentation de Taylor Swift, il l'annonce à 22h alors qu'elle commence le lendemain à 8h. Donc, en fait, c'est pas facile à anticiper, mais là, on a commencé un peu à plus anticiper. Et ce qu'on aimerait bien faire déjà, c'est donc, ouais, réactiver les groupes locaux. Donc, il y a des groupes Technopolis, mais il y a des groupes de gens qui luttent contre la surveillance dans leur ville sans lien du tout avec Technopolis, et en fait on se dit que ce serait vraiment intéressant de fédérer tout ça. Donc déjà, si vous faites partie, vous connaissez un groupe qui se mobilise contre l'installation de dispositifs de surveillance, que ce soit la vidéosurveillance toute simple ou d'autres choses, bah franchement on est hyper chaud d'avoir le contact et tout, parce qu'on aimerait bien faire une réunion qui fédère un peu tout ça, et ensuite peut-être développer des modes d'action, par exemple pendant les expérimentations, où on se dit qu'il y a quand même des choses à faire déjà pour visibiliser le fait que personne ne sait ce que c'est que la VSA. On s'est dit que peut-être on pourrait même aller poser la question aux gens et en sortir des chiffres et dire bah voilà, on a interrogé 200 personnes à tel endroit sous telle expérimentation et 90% des gens ne savaient pas ce qu'était la VSA et 100% ne savaient pas qu'ils passaient sous une expérimentation. Et bref, pouvoir visibiliser le manque d'informations, peut-être aussi du coup faire des... Donc on peut faire des demandes d'accès pour demander les données qui ont été traitées quand on est par les logiciels de VSA, donc ces demandes RGPD, donc le règlement européen général sur la protection des données qui permet de faire ça. Et en bref, on est en train d'essayer de chercher
des affiches.
Oui, bah, on se dit qu'on pour ce truc d'information, on pourrait faire des affiches situationnelles et on a un peu commencé à travailler là-dessus et tout. Et d'ailleurs, toutes ces productions-là, donc on a déjà une série d'affiches un peu génériques qui rappellent le propos de la VSA. On a la brochure, on compte faire des stickers, tout ça, et on va en faire en fait des petits kits de mobilisation. Et c'est là aussi où c'est cool si on arrive à un peu refaire le lien entre toutes les assos, et puis peut-être on pourra trouver des gens qui seraient intéressés pour qu'on leur envoie le kit pour aller déjà aux endroits, parce que nous on pourra agir que pendant les expérimentations à Paris, mais après, même s'il n'y a pas de VSA, il y a des choses à faire, et donc notamment cette idée que tu évoquais tout à l'heure peut-être proposer une lettre type de demande à sa mairie d'assurer qu'elle n'installera jamais de VSA. Il y a voilà, différents trucs comme ça qu'on pourrait faire. Et on s'était dit, peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait être aussi un moment où si vous avez des idées brillantes qui vous viennent, vous pourriez nous les communiquer, quoi. Donc, n'hésitez pas.
Pour terminer, peut-être avant d'ouvrir. Oui, donc sur le site, on a mis aussi des choses. Donc, il y a la VSA, mais il y a, Marle l'a dit, il y a d'autres types de surveillance. Et un peu essayer de relancer... les possibilités à ce niveau-là, on en parlait tout à l'heure. Dans des villes, il y a des gens qui font des cartographies, des cartoparties, des caméras, essayer de comprendre les modèles, etc., ce qu'ils peuvent faire. Il y a le fait d'organiser des événements, des festivals. Ouais, comme là, c'est vraiment trop bien. Enfin voilà, des choses sur le sujet dans sa ville. Ça peut être voilà, s'il y a une expérimentation aussi à côté de chez vous, c'est le moment d'aller parler aux gens, de documenter, c'est ce qu'on disait pour revenir à l'opacité. En fait, il continue d'y avoir énormément de choses illégales et en fait, ça continue d'être hyper crucial de faire ses demandes CADA, d'aller essayer de comprendre ce qui se passe dans sa ville pour en fait pas qu'il gagne justement dans cette stratégie d'invisibilisation de petits pas pour petit à petit construire le reste. Et vu qu'on a déjà pas mal parlé, ouais, peut-être du coup l'idée, ce qu'on disait, c'est déjà, si vous avez des questions, et vous, si vous aviez des idées, si demain il y avait soit une expérimentation, soit un truc à faire, quelles seraient vos idées? Et aussi, voilà, et redire ce qu'a dit Marne, si vous êtes intéressé pour faire des trucs dans vos villes, nous on est archipreneurs, preneuses plutôt, de faire le lien et de avec vous et avec d'autres groupes locaux pour voir ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, pour répéter la question, et comme ça, je suis pas sûre d'avoir compris, c'est donc comprendre le fonctionnement des drones avec ou sans VSA? Non, les drones tout court. Avec VSA? Alors, en fait, la loi, effectivement, prévoit que la police puisse utiliser les drones avec VSA. En fait, en pratique, ça marche pas. Enfin, il y a aucune entreprise qui fait ça. C'est vraiment, ça finira par marcher un jour, mais on est quand même loin parce que la VSA fixe sur les caméras fixes déjà, elle marche pas encore très bien. Alors une caméra qui bouge, c'est pas possible. Mais c'est vrai que légalement, je pense que quand ils ont rédigé la loi l'année dernière, ils se sont dit allez, on va faire le plus large possible, on va mettre les drones. Mais donc cette fameuse réunion où je m'étais incrustée de la N2V, je sais plus qui avait dit qu'effectivement, bah, c'est la meuf du ministère de l'Intérieur avait dit ah ouais non cette technologie est pas très mature sur le marché, ce qui veut dire qu'en fait personne le fait, voilà. Mais bon, la VSA tout court c'est déjà. Ouais, alors il y a une question là.
En vrai, c'est juste pour rebondir vite fait, mais on voit souvent des hélicos aussi de police avec des caméras énormes là, et ça marche pas non plus du coup.
S'il y a un hélico avec une caméra, c'est vraiment beaucoup plus efficace d'utiliser un humain pour regarder que la VSA. En fait, la VSA, c'est vraiment pour de l'automatisation de gros volumes, donc c'est pas forcément très pertinent. Mais... Et puis en plus, oui, quand la caméra est mouvante, c'est-à-dire que même les caméras de rue qui bougent, au moment où elles bougent, la VSA marche pas trop. Donc globalement, c'est plutôt utilisé sur des caméras qui sont fixes, même pas de zoom ou ce genre de choses.
Oui, il y a un usage spécifique des caméras thermiques pour repérer présence ou absence de personnes. Donc ça se fait avec les drones ou les hélicos, c'est pas de la VSA, mais c'est quand même à savoir, c'est déjà utilisé et c'est assez efficace pour le coup. On reconnaît pas, mais on voit présence-absence. Quoi.
Aux frontières notamment, ça est pas mal utilisé.
Ou dans des luttes écolo, la nuit.
Tout à l'heure, vous avez parlé de l'utilisation de micros dans les villes. Je ne suis pas sûr d'avoir compris dans quel contexte c'était utilisé et si c'était un projet qui allait être généralisé ou pas. Ou si c'était aussi, ça me paraissait aussi dingue que le reste. Donc.
Pour l'instant, on n'en a repéré que deux. Il y en a peut-être d'autres qui ont eu lieu, mais c'était à Orléans et à Saint-Étienne. Et donc, du coup, c'est usage de la police aussi pour les trucs qui étaient mis en avant, c'est détection de cris, de bruit de scie circulaire, ce genre de choses-là. Mais donc, oui, c'est des micros qui sont posés dans les rues dans le but de détecter aussi des événements suspects.
Ouais. Non, pardon. Juste peut-être pour préciser que c'était des projets et que à Saint-Étienne notamment, ils ont, enfin l'opposition, la contestation a gagné, ils les ont enlevés. Et ça c'est assez chouette. Et à Orléans, on a fait une action en justice qui a fait couler la boîte, enfin qui était un petit truc, mais qui a été racheté. Donc on ne sait pas où c'en est, mais c'est au point mort. Mais ça veut quand même dire qu'il y a des volontés de tester. Et la VSA, ça a commencé comme ça. Mais donc oui.
Oui, tout à l'heure, vous avez parlé des arrêtés préfectoraux. Moi, j'aime bien lire les relevés des actes administratifs de mon département et je vous invite à faire ça chez vous. Vous tapez RAA, le nom de votre département, et vous avez toutes les nouvelles de votre département mieux que le journal. Et je me demandais du coup si tous les usages de VSA ou installation, ils étaient indiqués. Est-ce qu'il les répertorie, par exemple, comme les nouvelles installations de caméras, c'est-à-dire à un temps en disant on va installer pour telle raison? Est-ce que c'est circonscrit dans le temps? Est-ce qu'il y a des consignes de circonscription dans le temps? Et voilà, pour un petit peu se tenir au courant de tout ça. Voilà.
Alors, la loi, effectivement, prévoit que ce soit circonscrit dans le temps de l'événement qui va être surveillé, un peu comme les drones. Mais là, par exemple, pour le concert de Taylor Swift, elle a fait 4 soirées, mais ils ont commencé 2 jours avant et ils ont fini 2 jours après. C'est possible si quelqu'un l'avait attaqué en justice que ce soit illégal, mais bon, bref. Donc c'est en gros l'arrêté préfectoral dit on va donc par exemple pour le conseil de Taylor Swift, c'était 4 usages sur les 8, dans quelle station de métro, sur combien de caméras, utilisé par qui, pendant combien de temps, etc. Le problème, c'est que, et en fait, c'est à peu près le même fonctionnement pour les drones. Quand il y a une manif et qu'il va y avoir des drones, il y a arrêté préfectoral d'autorisation, etc. Le truc, et Marne en a parlé tout à l'heure, c'est que ils sortent la veille. Donc très difficile de savoir, sauf par exemple Cannes, pour le festival de Cannes, la ville l'a dit il y a un mois, ouais, on veut utiliser la VSA, youpi. Mais donc, pour être au courant, c'est compliqué. Et en plus, toi, tu as des hobbies que pas tout le monde n'a, donc les gens ne vont pas forcément regarder les recueils administratifs, donc c'est encore plus compliqué. Et là, du coup, pareil, petite pub, on a un camarade qui a automatisé tout ça. et qui a créé, là, il y a quelques semaines, un petit robot, en fait, qui va regarder les recueils d'administratifs et va chercher des mots-clés. Enfin, du coup, va les lire automatiquement, va, si c'est un PDF, bref, il va faire en sorte de faire de la reconnaissance de caractère. Et il a mis en mots-clés drone, Jeux Olympiques, VSA, etc. Donc, c'est comme ça qu'on était au courant des premiers. Donc ça, c'est cool. L'outil, il n'est pas encore fini parce qu'il a pas, il a mis qu'une trentaine ou une quarantaine de préfectures. Mais si ça vous intéresse, il y a des devs ou quoi dans la salle, on peut contribuer. Enfin, il y a un guide et compagnie. Et d'ailleurs, pour la suite, on pense que cet outil peut être chouette pour d'autres choses. Il peut repérer d'autres choses dans les arrêtés préfectoraux, notamment les interdictions de manifs, etc. Mais c'est le nerf de la guerre, en fait, d'être au courant et de savoir ça. Parce que souvent ils le font en toute opacité et la petite affichette dans la gare de Lyon, il n'y a pas grand monde qui la voit quoi.
Mais si vous voulez suivre ce robot, il a un compte sur Mastodon. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Mastodon. Il s'appelle Surveillance Spotter. Non, Attrape Surveillance. C'est moi. Attrape Surveillance. Automate de traque des termes et de recherche dans les arrêtés préfectoraux. C'est les initiales ATTRAP Surveillance.
Moi, j'ai une question bête, mais c'est la VSA, ça marche s'il y a des caméras. Donc, la lutte, est-ce qu'on ne peut pas trouver des techniques pour supprimer les caméras, c'est tout.
Oui, les caméras, c'est à la base de tout ça. Donc, l'idéal, ça serait tout simplement d'arriver à débarrasser les villes de leurs caméras, mais on n'est pas bien parti pour que ça arrive. Du coup, voilà. Quand les caméras sont cassées, elles sont très vite remplacées. D'ailleurs, on n'a pas de visibilité sur à quel point il y a des militants qui vont jusqu'à la destruction de caméras. On ne sait pas. C'est un peu comme pour les actions anti-pub. Tout ça, c'est très très vite caché pour qu'on puisse pas voir qu'il y a une résistance qui existe. Et il y a un précédent de gens qui ont réussi à faire déposer une caméra par des moyens juridiques, mais c'est très très compliqué. Alors que normalement, je crois qu'il y a des critères légaux qui font que ça doit être une nécessité qui est justifiée pour chaque pose de caméra. C'est jamais le cas. Et oui, l'idéal, ça serait qu'il n'y ait plus de caméra.
Simple comme idée, mais je me dis que quand on va en manif, on s'habillerait tous pareil, ça compliquerait les choses.
En noir, par exemple. Mais alors après, ça, c'est au-delà de ça, c'est effectivement, c'est comme les maquillages anti-reconnaissance faciale. Enfin, il y a des trucs, il y a des idées comme ça artistiques qui sont sympas, justement pour visibiliser, mais sur le long terme. C'est pas forcément une solution. Déjà, c'est une solution individuelle, et puis c'est déjà la machine va finir par comprendre. Mais on est d'accord que pour visibiliser ou en tout cas faire des actions, pareil pour les expérimentations, si c'est densité trop importante de personnes qui doit être repérée, bah allons-y, faisons des gros groupes ou alors marchons tous à contresens. Enfin, il y a des trucs marrants à faire pour visibiliser, les embêter et peut-être faire autre chose à côté.
Comment ?
Des parapluies, voilà. Mais il faut toujours se dire que c'est des choses très ponctuelles, artistiques, militantes. Enfin, ce que je veux dire, un peu de démonstration, mais pas tant des solutions de long terme.
Attrape Surveillance, et c'est sur l'instance mammotte.fr.
Sans E, il n'y a pas de E.
M-A-M-O-T.
Attrape, il n'y a pas de E.
Non, il n'y a pas de E.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, idées ? Mais du coup, j'en profite pour refaire la pub pour notre super brochure et les très belles affiches faites par Marne qui sont toutes disponibles sur le site de campagne. Et non, et l'idée, c'est que ce soit... Alors, la brochure, on ne l'a pas encore mis en format recto verso, ça arrive. Mais même les affiches... N'hésitez pas à les imprimer, n'hésitez pas à les foutre partout, voilà, et à diffuser aussi ça. Et on va sûrement rajouter d'autres choses. Ah oui, bien vu. On voudrait faire un flyer type, justement, s'il y a une expérimentation à côté de chez vous. s'il y a des gens motivés pour aller tracter, pour informer les gens. Enfin voilà, et c'est ce genre de ressources, franchement, et même si dans les semaines qui viennent, vous avez des idées de dire « Ah, mais ça, ce serait cool qu'il y ait ça », et bah, c'est des choses qu'on peut réfléchir à plusieurs et à mettre sur ce kit de mobilisation. Il y a aussi des outils Technopolis, enfin, qu'on avait créé il y a longtemps, notamment un forum pour que les gens se parlent et sachent ce qui se passe dans leur ville. Un autre outil un peu collaboratif qui s'appelle le carré, où en fait c'est juste on crée des fiches quand on trouve une entreprise, quand on voit un projet dans une ville, etc. pour voilà, pour partager ces ressources, et c'est des choses qu'on a mis en place. Et il y a effectivement la revue Z qui va être présentée demain matin, qui du coup parle de la Seine-Saint-Denis et des JO, et dedans il y a une super BD sur la VSA. Et donc elle est dans la revue, n'hésitez pas à acheter la revue. Et il y a aussi, elle a été imprimée en petite flyer et vous pouvez vous servir là. Voilà, elle est marrante. Et sinon, il y a la présentation demain de la revue Z, donc n'hésitez pas à y aller aussi.
Et puis donc du coup, si jamais il y en a qui sont chauds pour se mobiliser, qui connaissent des groupes, machin, n'hésitez pas à venir nous voir. Si jamais vous y pensez que plus tard, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@laquadrature.net, voilà, ou à nous appeler, ou bref.